Radio Classique, les spécialistes de l'économie.
Il est 7h39, les spécialistes de l'économie chaque matin sur Radio Classique à 7h-ci avec Agnès Verdier-Bolinier. Bonjour, bonjour Agnès, présidente de sa fondation l'IFRA. Bertrand Martineau, bonjour.
Bonjour.
Économiste associé à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions de l'emploi notamment. Je vois qu'on démarre avec le sondage Ecoscope Opinion West Square pour les Échos et Radio Classique. Presque 8 personnes sur 10 estiment que la situation de l'économie française va encore se dégrader. À peine 9% table sur une amélioration. Presque un sondé sur deux pense que l'état de son entreprise va se détériorer et que sa situation financière personnelle va se dégrader. Est-ce que les Français ont raison d'être pessimistes pour eux, pour leurs proches, pour le pays ? Qui commence ? Bertrand qui lève le doigt. Bertrand.
Non, la situation n'inspire pas à l'optimisme à court terme. De toute façon, on est dans une crise économique qui durera au mieux quelques trimestres et qui, au pire, va durablement diminuer un peu notre potentiel de croissance. Ça dépendra un petit peu des politiques menées. Moi, ce qui me frappe dans ce sondage, c'est deux choses. C'est qu'inquiétude touche en fait toutes les catégories socioprofessionnelles, y compris les cadres et les professions intellectuelles supérieures, qui s'en étaient plutôt bien tirées en 2008-2009 lors de la crise précédente. Et le deuxième élément, c'est, moi je vois qu'il y a pas que du pessimisme collectif, il y a aussi du pessimisme individuel, c'est-à-dire pour votre situation à vous. Et ça, c'est très mauvais également pour les anticipations économiques de manière générale. Et donc, moi j'en tire comme conclusion que, sans surprise, les sujets de la rentrée de septembre, ce seront l'emploi et les revenus.
Emploi, on va en reparler dans un instant. Agnès Verdier-Molinier.
C'est sûr qu'on est dans une période très, très insécurisante sur le plan de l'emploi. D'ailleurs, on voit bien que ces derniers temps, les Français ont énormément épargné, de l'ordre de 80 milliards d'euros, épargne de précaution. On voit aussi que l'assurance vie décollecte beaucoup. Donc, on sent que on se prépare à devoir dépenser potentiellement un peu son bas de laine dans les prochains mois. Là, il y a eu des nouveaux chiffres de la DARES, Pôle emploi, qui nous disent, les catégories A, sur le dernier mois là de juin, c'est plutôt bien parce qu'il y a une baisse, mais on est quand même à 4 220 000 demandeurs d'emploi en catégorie A. Et ça, c'est que la catégorie A,
C'est la catégorie A, justement, qui baisse, mais il y a beaucoup d'activités partielles, justement.
Absolument,
voilà, c'est ça
absolument.
Le problème. Voilà.
C'est-à-dire qu'on est en train de vivre des vases communicants entre catégorie B et C, qui finalement se vident en catégorie A, et en plus, qui se re-remplissent quand les personnes retrouvent un petit peu quelques heures de travail. Mais globalement, on est quand même sur une situation du chômage qui est très, très préoccupante. On est sur des chiffres de plus de 11% de taux de chômage d'ici peut-être la fin de l'année, début d'année prochaine.
Exactement.
C'est normal, j'allais dire, ce serait étrange que les Français ne s'inquiètent pas dans une situation pareille. On sait aussi que tout le monde est un petit peu maintenu sous respirateur entre
le chômage partiel, le PGE pour la trésorerie des entreprises.
On sait qu'il y a encore 1,5 million de personnes en équivalent temps plein qui sont en chômage partiel. Les entreprises qui ont des PGE, mais aussi des reports de charges, etc., etc. Donc, finalement, on va en savoir plus à la rentrée. Tout le monde se prépare à une rentrée difficile sur le front de l'emploi. Et je suis d'accord avec Bertrand, tout le monde peut être touché. À un moment, il y avait certains ministres qui avaient dit « c'est plus risqué pour la femme de ménage que pour le cadre ».
Non.
C'est risqué pour tout le monde.
Mais, pardon, vous n'avez pas aucune perspective, j'allais dire positive, optimiste, au milieu de tout ça. Bon, c'est vrai, l'emploi, c'est vraiment votre dossier, Bertrand Martineau. On voit un Français sur deux qui craint de voir un de ses proches perdre son emploi. 4 actifs sur 10 de perdre le leur, notamment les jeunes actifs. Les perspectives, elles sont pas bonnes. Agnès nous les rappelait il y a un instant.
Oui, mais enfin, à l'intérieur de perspectives pas bonnes, on peut aller de pas bonnes à très très mauvaises, si vous voulez. Donc, il y a quand même une marge d'incertitude. Le sujet, c'est que le marché du travail subit en ce moment et va subir un choc énorme. C'est pas le confinement. Le confinement, c'était pas un effondrement du marché du travail, c'est un arrêt de l'activité. C'est pas que le marché du travail fonctionne pas bien, c'est qu'il fonctionne plus du tout. Là, le marché du travail se remet à fonctionner, sauf que entre-temps, de nombreux emplois vont être détruits et de nouveaux emplois vont se créer. Sauf que ces emplois qui vont se créer, ils vont pas se créer immédiatement et pas forcément sur les qualifications antérieures.
Il faut le temps de former des nouveaux métiers, nouvelles activités, bien entendu.
Oui,
bien sûr.
C'est aussi de cette capacité à se reconvertir finalement que dépendra le fait que la situation sera vraiment très très mauvaise ou simplement une mauvaise passe.
La fameuse mutation, soit vers les métiers liés à l'environnement, soit le digital. sociale.
Oui, oui, mais alors, l'expérience française des dernières décennies, c'est que le marché du travail ne fonctionne pas de manière très, très, très souple pour permettre ces ajustements.
Tout juste.
Bon, là, peut-être qu'avec tout ce qui a été fait sur les, sur la flexibilité des accords d'entreprise, par exemple, on peut peut-être imaginer, avec la réforme de la formation professionnelle aussi, on peut peut-être imaginer que cette fois-ci, le marché du travail français soit un peu plus réactif.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, sur les contrats à durée déterminée, on ne mette pas plus de souplesse. En Allemagne, par exemple, vous pouvez signer un CDD pour 4 ans sans être obligé de dire je remplace telle personne qui est en congé maternité ou qui est malade, etc. etc. On a encore des contraintes qui sont tellement plus importantes que dans les pays environnants que parfois on se pose la question, est-ce qu'on ne fait pas exprès de se créer des difficultés pour embaucher?
À propos d'emploi, c'est Augustin de Romanet qui était ici même au micro de Radio Classique, à mes côtés, le patron d'Aéroports de Paris, qui évoquait l'idée de discuter avec les syndicats d'accords de performance collective. Dans ce contexte de Covid, hein, France Stratégie d'ailleurs qui se penche sur cette pratique, les accords de performance collective, on appelle aussi les APC. Pour résumer, Bertrand, vraiment résumer, c'est un maintien de l'emploi moyennant des baisses de rémunération, si je devais vraiment expliquer ça le plus sobrement possible.
Baisse de rémunération et aménagement, donc baisse ou augmentation du temps de travail.
Oui.
Et mobilité.
Mobilité interne, géographique ou professionnelle, vous avez raison.
Exactement, c'est les trois éléments d'un accord de performance collective.
C'est une pratique répandue, c'est utile,
Alors, sans rentrer dans les détails, le point important de l'accord de performance collective, c'est un accord d'entreprise qui s'impose au contrat de travail. C'est ça l'élément essentiel. D'habitude, quand vous avez un accord collectif qui touche à des éléments de contrat de travail, c'est la norme juridique la plus protectrice, c'est-à-dire le contrat de travail qui s'applique. Là, si un accord collectif décide une suppression de prime, même si elle est intégrée dans le contrat de travail, ça s'impose
bien
au contrat de travail.
Je comprends. Voilà. D'accord.
De même sur le temps de travail, là, les clauses de mobilité, etc.
Donc, il y en a beaucoup. Ça concerne quoi comme type d'entreprise? Plutôt des PME, non?
Alors beaucoup de PME, d'ETI aussi, d'entreprises de taille intermédiaire. Alors c'est un instrument qui a été créé en fait en 2017 dans les ordonnances dites Macron, et qui pour l'instant, comme on était plutôt en période relativement faste sur le front de l'emploi et des salaires,
surtout
de l'emploi, il n'y en avait pas énormément besoin. Là, évidemment, beaucoup d'entreprises se disent que c'était un moyen finalement d'éviter des plans de restructuration durs, c'est-à-dire avec des licenciements à la clé. Donc l'idée, c'est plutôt que de faire, l'idée générale est bonne, c'est-à-dire plutôt que de faire de la flexibilité externe, c'est-à-dire licencier, se débarrasser des CDD, de l'intérim, etc. L'idée, c'est de faire de la flexibilité interne. Ce que font les Allemands, et ce qui a souvent très bien marché en Allemagne, comme en témoigne encore la crise de 2008-2009. Donc en France, c'est un des éléments favorables, optimistes, il n'y en a pas tant que ça finalement dans le contexte d'aujourd'hui, un des éléments optimistes, c'est que on a des outils juridiques, les entreprises ont des outils juridiques pour faire de la flexibilité interne un peu à l'allemande, pour éviter que le marché du travail s'ajuste.
Maintenant, l'emploi, c'est ce que disait Augustin de Romanet,
il voulait maintenir des contraintes, alors qui sont temporaires en principe temporaires sur les salaires en particulier.
Agnès Verdier-Molinier.
Pour moi, les accords de performance collective, c'est la clé, c'est une des clés hein, des prochains mois qu'on va passer. Il n'y en a eu que 15 qui ont été signés depuis le début de la crise, 371 depuis qu'ils existent. C'est peu, 15. On devrait en avoir beaucoup plus aujourd'hui. Pourquoi il n'y en a pas plus qui sont signés? Tout simplement parce qu'il faut signer avec des syndicats qui représentent 50% des salariés. Et que c'est très compliqué. Et que finalement, ces dernières années, en augmentant le pourcentage, avant c'était 30%, on pouvait signer des accords avec des syndicats qui représentent 30%. Dans les TPE, là où il y a le plus de signatures, vous pouvez passer par des référendums. Alors, il faut avoir la majorité des 2/3 des salariés. Mais, donc c'est pas si facile que ça. Nous, ce que nous proposons à la Fondation IFRAP, c'est de réfléchir tout de suite à passer par référendum pour toutes les tailles d'entreprise. C'est-à-dire que nous ne devons pas perdre un mois, même une semaine...
De convaincre...
Parce que qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Et j'ai des cas concrets, mais que je ne peux pas citer malheureusement. Dans ces entreprises, il y a l'accord de performance collective qui est sur la table. Par exemple, c'est supprimer le 13e mois, c'est supprimer des primes pour pouvoir conserver tous les emplois, le maximum d'emplois possible. Les syndicats jouent la montre, ils ne signent pas tout de suite. Parfois, on se demande même s'ils préfèrent pas qu'on aille vers une dégradation de la situation. Pourquoi? Parce que aussi, les salariés protégés, ils ne sont pas forcément concernés. Enfin, quand on est sur des PSE, quand on est sur des licenciements, ils seraient concernés par des baisses de salaire, par des réductions, par exemple la suppression d'un 13e mois, d'un 14e mois, comme on l'a vu sur certaines entreprises. Alors, attention, si on veut vraiment que ce dispositif marche, il y a deux choses à faire. Un, que le gouvernement dise qu'il faut les utiliser, hein, et qu'on doit passer potentiellement par des référendums, c'est maintenant qu'il faut bouger. Et deux, que les syndicats disent qu'ils sont pour. Parce qu'au niveau des centrales nationales, vous entendez beaucoup de centrales qui disent qu'ils sont pour cet outil. Ben non. Et même quand FO signe chez De Richebourg à Toulouse, dans l'aéronautique,
bien sûr.
Qu'est-ce qu'on entend? La centrale...
Le chantage, la menace...
Non, mais la centrale locale qui a le courage de signer, et au niveau national,
on tord le nez,
on dit, mais attendez, c'est comme ça qu'on va sauver...
à l'emploi.
C'est comme ça qu'on va sauver des dizaines de milliers d'emplois.
Voilà, le plaidoyer, donc, pro-APC, les accords de performance collective. On y revient dans un instant avec les spécialistes de l'économie sur Radio Classique. Il est déjà 8h10. À tout de suite.
Dans un monde de plus en plus incertain, mieux vaut confier ses investissements à un expert de la gestion d'actifs. Chez Covea Finance, nous gardons le cap avec un engagement. Répondre au mieux aux objectifs de nos clients et les accompagner sur le long terme dans un monde en pleine mutation. Covea Finance, la société de gestion engagée à vos côtés. Retrouvez-nous sur covea-finance.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Radio Classique, les spécialistes de l'économie.
Les spécialistes de l'économie, toujours avec nous, Bertrand Martineau, économiste associé à l'Institut Montaigne, Agnès Verdier-Molinier, présidente de l'IFRAP. Je reviens juste sur ce sondage Radio Classique, Opinionway, les échos. 57% des Français se disent persuadés que les impôts locaux vont s'accroître. 44% pour la TVA, 40% sur l'impôt sur les sociétés, une personne sur deux pour l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit quand un manque de confiance vis-à-vis du gouvernement qui a dit que les impôts vont pas augmenter? Ou au contraire, le fait que la situation économique, elle est vraiment très très mauvaise? Agnès Verdier-Molinier.
Ça traduit le fait que les Français ont beaucoup de bon sens. Ils voient des milliards qui volent dans tous les sens. Et là, je pense que le gouvernement en fait trop. Quand on dit on a mis 500 milliards sur la table, c'est pas vrai. Il y a 58 milliards de budgétaires pour l'instant. Alors, il y en aura un peu plus à la rentrée. Et puis le reste, c'est des prêts garantis par l'État. Ça ne veut pas dire qu'on a mis du budgétaire comme ça, qu'on a dépensé 500 milliards. Il faut vraiment se méfier. On en parlait la semaine dernière sur la question du plan jeune. Il n'y a pas 6,5 milliards qui sont sortis comme ça. Ce n'est pas vrai, tant qu'il n'y a pas les embauches à la clé. Donc, je trouve qu'on fait trop valser les milliards, qu'on donne trop d'informations comme ça. Et qu'est-ce que ça fait dire aux Français? On dépense, donc il faut bien que quelqu'un paye. Donc, à un moment, il va falloir aussi se poser la question de quel est le plan pour sortir de cette situation. On ne peut pas éternellement avoir 200 milliards de déficit comme on va avoir cette année. Donc, quel est le plan de redressement? Expliquer aux Français de manière pédagogique la situation et avoir une sorte de plan de sortie. On va devoir travailler plus, on l'a dit. Et tous les pays le savent en Europe, notamment les pays du Sud, il va falloir travailler plus, prendre la retraite plus tard. Là-dessus, je trouve que le gouvernement n'est pas assez clair avec les Français.
Bertrand Martineau.
Oui, je suis assez d'accord. Ce qui sera un élément clé, c'est qu'assez rapidement, alors là, on est dans l'urgence, évidemment, mais très rapidement, il faudra à destination des ménages et puis des acteurs économiques en général, que le gouvernement et les gouvernements européens de manière générale indiquent la trajectoire financière des prochaines années. Et cette trajectoire, au-delà des élections de 2022, comportera sans doute inévitablement des hausses d'impôts. Donc il faudra commencer. Voilà, elles ne seront peut-être pas massives, on peut peut-être trouver des formules.
Alors,
ça dépendra aussi du niveau des taux d'intérêt. Mais s'il reste à zéro ou selon qui remonte, évidemment, on n'est pas dans la même situation.
Les milliards qui valsent, en effet, et au niveau européen, on parle de 750 milliards, le fameux plan de relance. La question aussi, c'est comment les trouver, comment le financer. Alors on parle de taxes sur les GAFA, sur le plastique, le carbone aux frontières. Et pourquoi pas aussi une taxe sur les transactions financières, sujet à nouveau posé, parce que ce type de projet n'a jamais vraiment abouti. L'idée, elle est soutenue par des députés européens, par le couple franco-allemand, par l'Allemagne notamment, qui préside l'UE. Il s'agirait de taxer seulement les achats d'actions des très grandes sociétés à hauteur de 0,2%, mais pas les transactions sur les obligations ou les produits dérivés. Une sorte de taxe sur les transactions à minima. Elle va voir le jour, elle est pertinente. Ça peut enfin aboutir, maintenant que le Royaume-Uni est parti, Agnès Verdier-Molinier.
C'est complètement cosmétique. On parle de 3,5 milliards, on est en train d'emprunter 750 milliards. Là, on fait de la com. Et puis alors, vous notez bien quand même que les obligations ne sont pas concernées.
Non.
Non, mais c'est un peu étonnant. C'est-à-dire que quand on a besoin de la finance pour le secteur privé, là, c'est moche. Il faut pas y aller, faut taxer quand c'est sur plus d'un milliard de capitalisation boursière. Mais quand on est sur... on rachète des obligations, etc., d'État, Et là, on parle de centaines de milliards.
Donc vous dites que c'est de la cosmétique.
Non, mais c'est de la cosmétique. Mmh. Ça ne paiera jamais. Ça ne paiera jamais les 750 milliards qu'on va emprunter. Et par ailleurs, j'aimerais savoir.
Ça rassure peut-être
aussi,
l'opinion.
Là aussi, on a un problème de trajectoire et d'information. Hein, parce que la France va être co-responsable pour 67 milliards d'emprunts. Et donc, à un moment, on va devoir peut-être augmenter la note annuelle de ce que nous payons à l'Union européenne. À aucun moment, on nous a expliqué comment ça allait fonctionner. On emprunte, mais on ne sait pas comment on finance.
Le mot de la fin, Bertrand Martineau.
Oui, je crois que dans ces débats, on mélange la morale et l'économie. Inventer une taxe, c'est un problème économique. Ça doit être étudié sérieusement. Il y a une étude d'impact à faire. Ça, c'est le premier élément. Il faut arrêter avec la question de la morale dans la taxe. On n'est pas dans cet univers moral, on est dans l'efficacité économique. Et le deuxième point, c'est que ce serait bien aussi qu'on parle de baisse d'imposition. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'une fiscalité européenne viennent s'ajouter aux taxes. Ce serait mauvais économiquement et je pense que ce serait pas bon pour l'image de l'Europe.
Mais la taxe plastique, par exemple, on dit que c'est Agnès, les Français qui vont majoritairement la payer.
Il y a David Barou qui
nous attend. Les Français n'ont pas besoin d'impôts. En plus, on est déjà le pays le plus imposé.
Merci beaucoup. Bonne journée à tous les deux. Agnès Verdier-Molinier, présidente de l'IFRA. Bertrand Martineau, économiste associé à l'Institut Montaigne. 8h05 sur Radio Classique.